Vous écoutez France Culture.
Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à la peine capitale, alors que cette année, en février, le Congrès a voté l'entrée dans la Constitution de l'interdiction de la peine de mort, et alors même qu'il y a 250 ans, en mars 1757, Damien a été supplicié en place de grève, nous allons ce matin revenir sur les travaux en cours sur ces sujets, car depuis « Surveiller et punir » de Michel Foucault en 1975, et les travaux des 19e-istes sur l'histoire du corps et l'histoire de la médecine, un certain nombre de chercheurs se sont intéressés depuis une dizaine, une vingtaine d'années même, à la question de l'exécution capitale dans ce qu'elle rassemble la symbolique de la peine, l'histoire politique, l'histoire sociale, également l'histoire culturelle, et on pourrait peut-être trouver d'autres genres de l'histoire qui sont rassemblés dans cette histoire de l'exécution capitale. Pour évoquer ces questions, nous serons avec quatre chercheurs, Vincent Barras, historien de la médecine, et Jérôme Bourgon, spécialiste de la Chine, chercheur au CNRS et organisateur de l'exposition qui dure jusqu'au 24 avril à l'École normale supérieure de Lyon sur le supplice chinois. Tous les deux sont en duplex de Genève. Anne Carole, professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille, elle est en duplex de Aix-en-Provence. Et Emmanuel Taïeb qui est avec nous en studio, il est docteur en sciences politiques et chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas là souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions que le sang s'épuise goutte à goutte ou que l'intelligence s'éteigne, pensée à pensée? Et puis, on ne souffre pas, en sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée, sanglante, au bord du panier, et qu'elle ait crié au peuple « Cela ne fait pas de mal ». Y a-t-il des morts, de leur façon, qui soient venus les remercier et leur dire « C'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne. Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Non, rien. Moins qu'une minute, moins qu'une seconde et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis, seulement en pensée, à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres? Mais quoi? Une demi-seconde? La douleur est escamotée? Horreur. Tiré évidemment du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Voilà de quoi démarrer notre discussion, puisque pour un texte qui date de la première moitié du 19e siècle, il y a là bien des discussions qui courront tout au long du 19e siècle et qui viendront même jusqu'au milieu du 20e siècle. Bien des discussions en particulier sur cette fameuse guillotine dont on a parlé depuis le début de la semaine. Cette guillotine qui était censée abréger les souffrances, être une sorte d'avancée presque sociale et culturelle face à la barbarie de la hache qui l'a précédée. Alors Anne Carole, vous êtes avec nous depuis Aix-en-Provence. Vous aviez coordonné, et c'est un peu ce qui nous a aussi donné l'idée de cette série d'émissions avec Régis Bertrand, une série de communications pour des colloques qui s'intitule « L'exécution capitale », publié donc aux éditions des Presses universitaires de Provence, « Une mort donnée en spectacle, 16e, 20e siècle », bien des contributions d'ailleurs de certains qui sont ici à notre micro aujourd'hui, dont vous. Et évidemment, ce texte de Victor Hugo revient sur quelque chose qui vous tient à cœur, c'est-à-dire le discours médical sur la décollation, le discours des médecins sur la facilité peut-être que la guillotine offre et puis la moindre souffrance qu'elle provoque auprès du condamné à mort.
Oui, effectivement, les médecins sont à l'origine de l'invention de la guillotine, avec le docteur Guillotin qui a eu cette idée de faire trancher les têtes. et de remplacer aussi et surtout tous les supplices précédents dans leur cruauté par ce supplice unique. Mais la guillotine a aussi été perfectionnée par un chirurgien, Antoine Louis, qui n'a pas laissé son nom à l'engin comme le docteur Guillotin. Et il y a là une volonté véritablement de déterminer ce que sera la bonne mort pénale, c'est-à-dire une mort la plus rapide, la plus indolore par conséquent et la plus sûre possible par rapport au supplice d'Ancien Régime. Donc les médecins vont se consacrer à cette mise au point de la bonne mort et de ce fait, jusqu'au XXe siècle, ils ne vont cesser d'être questionnés par la société sur la réalité de cette bonne mort.
Et ça sera donc un discours récurrent entre ce milieu médical et puis le milieu donc, de la presse, de l'opinion, des écrivains, des penseurs, des intellectuels. Vincent Barras, vous êtes avec nous en duplex oui. Et vous êtes dans le même studio que Jérôme Bourbon. C'est un des débats récurrents donc, que cette question de savoir si on souffre pas, comment souffre-t-on lorsque l'on est guillotiné?
Oui, c'est le débat qui est ouvert, si j'ose dire, par la guillotine ou par l'usage de la guillotine dès qu'elle est mise en place à la fin du XVIIIe siècle et qui partage les médecins en deux camps, en tout cas dès les débuts. Ceux qui sont partisans de la mort subite, c'est-à-dire on coupe le couperet tombe et c'est la mort. Et d'autres qui disent non, ce n'est pas la mort, puisqu'il y a une forme de vie qui survit. La preuve étant les horribles clignements d'yeux, les grimaces terribles que font les têtes des condamnés.
Et, le rougeoiement de Charlotte Corday lorsqu'elle est souffletée par son bourreau.
Par exemple, l'exemple de Charlotte Corday qui devient rouge de honte ou de colère lorsqu'elle est humiliée après sa mort. Bref, si vous voulez, s'il y a une sorte de nœud d'emblée entre des arguments d'ordre moral, d'ordre politique et aussi d'ordre physiologique. Au fond, la guillotine ouvre une sorte de laboratoire à la fois scientifique et social.
Mais Vincent Barras, il y a aussi cette utopie chez les médecins de percer finalement le mystère de la mort. Enfin, c'est pas nouveau, mais peut-être qu'il y a justement cet intérêt, cette collaboration entre médecine et justice pour essayer d'éluder cette question. Et notamment, vous parlez dans votre article de cette question de la séparation de l'âme et du corps au oui. moment de la décollation.
En effet, si vous voulez, la guillotine offre un dispositif expérimental idéal, d'une certaine façon, puisque vous avez... le débat de l'âme et du corps est évidemment un débat très ancien qui remonte au premier temps de la médecine occidentale, du moins. Mais là, vous avez une occasion rêvée de mettre en pratique de vieilles théories, si vous voulez. D'un côté, vous avez l'âme, c'est-à-dire la tête, et de l'autre côté, le corps. Enfin, je simplifie un peu le débat, mais c'est quelque chose de cet ordre-là qui est en jeu. Est-ce que, donc, de réaliser expérimentalement une sorte de séparation artificielle entre l'âme et le corps. Et c'est un des enjeux qui prend des tours très techniques parfois dans les discussions que les médecins entreprennent à la fin du XVIIIe siècle.
Alors, historienne d'histoire... Oui, Anne-Carole.
Oui, non, si je peux me permettre aussi, il faut bien prendre conscience que tout le savoir scientifique sur la mort au cours du XIXe siècle va vers un allongement de la mort comme processus. La mort devient de plus en plus un phénomène qui dure, hein, jusqu'à la mort cellulaire, de la mort du tout à la mort cellulaire. Et la guillotine est complètement à l'encontre de ça. Donc elle est tellement subite, tellement rapide, la mort, qu'on ne peut pas ne pas croire qu'il subsiste de la vie après avoir coupé cet homme en deux.
Oui, et alors donc vous êtes professeur d'histoire contemporaine. On avait un historien de la médecine, Vincent Barras, qui s'exprimait. Maintenant, un docteur en sciences politiques, Emmanuel Taïeb, bonjour. Vous êtes
bonjour.
Avec nous donc en studio à Paris. Il y a quelque chose qu'il faut absolument mettre comme préliminaire à notre discussion, peut-être, c'est cette question de la peine de mort par rapport à d'autres peines, par exemple la peine corporelle. Il y a une vraie différence, dites-vous, dans vos travaux, entre les deux. Il y en a une qui n'est pas faite pour souffrir. C'est pour ça, d'ailleurs, que, justement, puisqu'elle n'est pas faite pour souffrir, il faut faire en sorte que la mort soit la plus rapide possible, qu'il y ait cette légère fraîcheur prêtée dans son discours au docteur Guillotin, donc pour le condamné à mort qui subirait donc la guillotine.
Oui, ça a été mentionné. L'invention de la guillotine a été faite pour, ça a été dit aussi dans l'émission d'hier, aller vite, donner une mort sans souffrance. C'est une machine perfectionnée qui va rationaliser des formes de mise à mort qui jusque-là faisaient beaucoup souffrir. L'enjeu qui se passe au niveau de la médecine et dans le débat qu'on vient d'avoir et qui a eu lieu au XIXe siècle, c'est que c'est toute la question de savoir si on maintient la guillotine ou pas comme forme d'exécution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on détermine que c'est une peine qui fait souffrir, alors il faut la supprimer car elle n'est plus conforme à la bonne mort. Et donc, tout le long du XIXe siècle, on suit ce qui se passe avec d'autres formes d'exécution. On suit ce qui se passe aux États-Unis avec ce qu'on appelait à l'époque la fulguration, qui va donner la chaise électrique. Mmh. On suit les pendaisons anglaises en essayant de trouver le système qui fait le moins souffrir, qui n'altère pas le corps du condamné.
Alors justement, dans cette ouverture, pourrait-on dire, intellectuelle à ce qui se passe ailleurs en termes d'exécution, même si évidemment tout cela apparaît dramatique, Jérôme Bourgon, il y a l'apparition d'un autre total dans l'univers des penseurs du 19e siècle, c'est l'arrivée de l'Extrême-Orient et en particulier de la Chine. Vous êtes spécialiste vous-même de la Chine et je l'ai dit en ouverture, vous avez travaillé à une exposition qui est présentée jusqu'au 24 avril à l'École normale supérieure de Lyon sur les supplices chinois. On trouve là, disons, dans ce supplice chinois, dans ce Lingzhi, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, on trouve en Lingzhi, pardon, excusez-moi, on trouve là donc l'autre barbare d'une certaine façon qui nous permet de nous dire que nous on va dans un sens du progrès alors que d'autres restent encore à des pratiques médiévales, moyenâgeuses.
Oui, en effet, on pourrait dire que c'est au moment où la guillotine se retire dans des endroits assez discrets, lorsqu'elle sort véritablement de la scène publique, que le Lingzhi ou un certain nombre de supplices chinois arrivent pour la remplacer en quelque sorte. Il y a une espèce de chassé croisé. Mais est-ce que je peux vous dire qu'en tant qu'historien du droit chinois, je me sens assez dépaysé pour le moment
dans la discussion.
Dans la discussion, dans la mesure où précisément, s'il y a une chose caractéristique dans la pensée chinoise sur les exécutions, c'est que la douleur n'est jamais thématisée.
Ah oui.
C'est-à-dire que les Chinois discuteront, poseront le problème de l'exécution, ils l'ont posé avec beaucoup d'acuité, et il y a eu des débats vraiment très animés sur cette question, mais on, très curieusement...
En ne faisant entrer cette catégorie de la douleur dans la réflexion, d'une certaine façon.
Exactement. On peut être opposé à certains types de peines, sans pour autant poser le problème de la douleur qu'elle cause. Vous voyez ? En Chine, en tout cas.
Et donc, vous montrez, Jérôme Bourgon, justement, que ces aquarelles, ces représentations picturales de certains supplices sont sans pathos, vous dites, ni sans.
Alors, il s'agit des planches chinoises.
Oui,
on
des
a,
planches
en fait,
chinoises.
Très peu de reproductions, on a très peu de représentations des peines chinoises par des Chinois destinées aux Chinois. Et lorsqu'on en trouve, en effet, elles sont absolument sans passion, nous les trouvons absolument édulcorées. Elles sont très précises, très informatives, mais en même temps, il n'y a aucune passion, aucune... Et surtout, les éléments physiques sont délibérément gommés. Pardon.
Oui.
Alors que par contre, les aquarelles qui ont été faites en Chine à destination de l'Occident, et qui sont arrivées en masse à partir de la fin du XVIIIe siècle, elles, par contre, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire c'est une caricature, c'est le supplice chinois déjà. Alors on exagère le côté organique, le côté sanglant.
Mais qu'est-ce qui explique justement cette différence de traitement, selon vous, Jérôme Bourgon, entre, pourrait-on dire, le marché intérieur et le marché de l'exportation de la représentation de la mort, justement ?
Eh bien parce que ces ateliers chinois qui étaient tous à Canton à une époque où les Occidentaux n'avaient pas le droit d'entrer en Chine, ils étaient confinés à Canton, ils devaient faire leur marché de représentation de la Chine et c'est la demande qui dictait l'offre en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils demandaient un certain nombre de choses précises et les Chinois devaient répondre à cette demande sans avoir les éléments. Il n'y a pas de tradition de la représentation des peines, on n'est pas du tout en Occident. Là. Les peintres chinois ont dû improviser. Donc ils ont travaillé avec des éléments de briques et de broc, ils ont pris des représentations de l'enfer bouddhique par exemple, des représentations de chrétiennes, de l'iconographie chrétienne, un certain nombre de choses qu'ils savaient qu'ils ont représentées plus ou moins, de manière plus ou moins exacte, et ça nous a donné une espèce de produit hybride qui est devenu le supplice chinois.
Tout ça pour faire plaisir à leurs clients, d'une certaine façon. C'est ce que vous laissez entendre, Jérôme Bourgon.
Pour répondre à la demande, absolument.
Pour répondre à une certaine demande. Parce que si on insiste justement sur la particularité, la différence de traitement de l'exécution, par exemple, en Chine et en Europe occidentale, il y a une différence très nette, dites-vous, par exemple, dans la question de l'exposition. On a beaucoup parlé ici même depuis le début de cette semaine de l'échafaud, du fait qu'il fallait monter pour être vu, etc. C'est tout autre chose dans la Chine que vous connaissez, Jérôme Bourgon. C'est-à-dire que la foule n'est pas écartée, elle est tout proche du supplice, tout cela se passe dans la rue. Là aussi, comme en Europe, sur des places de marché ou dans des endroits relativement passants pour que ça soit vu. Mais la question de l'exemplarité n'est pas la même.
Exactement. C'est-à-dire qu'on a bien, bel et bien affaire à une exécution publique et qui est faite en effet pour transmettre un exemple, pour être dissuasive, pour dissuader du crime. Donc là, c'est le point commun. Mais ce qui est très frappant et ce qui fait que l'exécution chinoise a l'air d'un, vraiment d'un chaos barbare, c'est qu'elle n'est pas organisée en spectacle. C'est-à-dire qu'on n'a aucun des éléments techniques qui constituent le spectacle. Par exemple, en effet, on n'a pas d'échafaud, on n'a pas de scène, on n'a pas de scénario. Et les
On
a d'une certaine manière un rituel. Les choses sont organisées, ordonnées. Mais on peut dire que les protagonistes ne jouent pas un rôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole, par exemple, comme dans les exécutions françaises que je connais, par exemple. Par exemple, le bourreau n'est pas obligé de montrer qu'il fait mal. On a des bourreaux qui sont absolument impassibles et qui font un travail comme des fonctionnaires, je dirais. On n'a aucune démonstration, on ne doit pas montrer, on n'a pas affaire à un spectateur, le spectateur n'existe pas. Donc on fait son travail, on fait sa besogne et les gens sont autour, quasiment au contact. On n'a pas de représentation spectaculaire de l'exécution.
Voilà,
on a une exécution de la loi.
Voilà donc, Emmanuel Taïeb, quelque chose qui est assez étranger à ce sur quoi vous avez travaillé vous-même et ce sur quoi ont travaillé Vincent Barras et Anne Carole. Ça n'est pas la même façon de concevoir.
Oui,
en tous les cas.
Là, effectivement, on est en contrepoint par rapport à ce qui se passe dans la tradition française où, effectivement, en tout cas, jusqu'à la fin du 19e siècle, l'exécution est conçue comme un spectacle, comme un rituel très connu, très marqué, très scénarisé, théâtralisé. Ça fait partie de ce qu'on peut appeler la théatrocratie du pouvoir, hein, la démonstration de pouvoir, donc avec une procession, un aumônier, les dernières paroles du condamné, un échafaud effectivement qu'on va surélever.
Une littérature assez abondante d'ailleurs, on peut en trouver la trace, j'y étais ce matin sur Gallica par exemple, gallica.fr, la Bibliothèque Nationale de France met en ligne une littérature assez abondante de petits récits d'exécution comme ça, qui sont des récits du 16e, 17e, 18e, 19e siècle.
Oui, et au 18e les canards, les petits journaux de l'époque prennent le relais, on a des complaintes, ça a été mentionné dans les émissions précédentes, on a des dessins, on a toute une imagerie, on a des images d'Épinal, alors qu'ils gomment plutôt la violence. Elles seront remplacées ensuite par les photos, mais il y a effectivement une espèce de pédagogie, hein, de pédagogie de l'effroi ou de pédagogie de la peur, de la démonstration de force qu'est l'exécution.
Vincent Barras.
Oui.
Sur ce que disait à la fois votre voisin de studio, Jérôme Bourgon, et sur la différence que l'on peut percevoir entre ces terrains d'expérimentation, ces terrains politiques que sont l'Extrême-Orient, par exemple, et puis ce qui se passe en Occident à la même époque.
Oui, alors disons, du point de vue que j'ai pu étudier moi-même, effectivement, je ne sais pas si, par exemple, des médecins ou des hommes de science, hommes ou femmes de science, se sont intéressés en Chine aux questions de l'exécution. D'après ce que dit mon collègue à côté de moi dans le studio de Genève, il semblerait que non. Et en tout cas,
je n'en connais pas. Hein, je ne crois pas.
Et on peut faire l'hypothèse que ces médecins ou ces hommes de science, physiologistes aussi, neurologues, font partie de cette théâtralité typiquement occidentale. Moi, j'irais dans ce sens-là, effectivement. Ils participent même en produisant un discours scientifique apparemment complètement dépassionné, purement rationnel. Y a-t-il ou non persistance de la vie après la mort, etc. Ça paraît dans les revues scientifiques. Mais je crois que tout cela participe également d'une mise en scène de ce moment capital.
Vous dites vous-même que le médecin est considéré un peu comme un technicien du corps supplicié. Il y a quelque chose qui va avec cela.
Oui, tout à fait. C'est un technicien et disons un penseur du corps supplicié. Hein, à défaut de savoir si les têtes des condamnés, une fois coupées, continuent de penser, ce qui est un débat. En tout cas, le médecin pense à leur place et il fait toute une série d'expérimentations pour se demander si... Et tout cela a évidemment un impact public intéressant. Il y a des gravures qui paraissent aussi dans des revues scientifiques, mais qui sont d'une force expressive extraordinaire, on est loin d'une mise en scène neutre et dépassionnée des choses.
Mais cela tient aussi, peut-être aussi, et vous l'expliquez, Vincent Barras, au fait que c'est le début, première moitié du 19e siècle, d'une sorte de véritable révolution des savoirs médicaux, et que, évidemment, cette révolution des savoirs médicaux accompagne ce développement des exécutions capitales après la Révolution française, donc avec ce qui s'est passé, donc et l'invention de la guillotine en particulier, et que donc l'un allant avec l'autre, il y a un cheminement, je ne dirais pas naturel, puisque c'est un peu plus culturel et construit, mais néanmoins il y a un cheminement qui va de pair entre médecine et justice.
Et entre médecine, justice et technique, je dirais. L'invention technique tout à fait déterminante dans ce laboratoire qu'est la scène de l'exécution par guillotine, c'est la pile. la pile électrique, qui permet justement aux médecins, elle est inventée à la fin du XVIIIe siècle, et elle permet aux médecins, aux physiologistes, de tester sur ces corps qui sont des sortes de paquets de nerfs. Soit vous avez un cerveau, une pensée, une âme, et de l'autre côté un corps qui n'est plus que nerfs et muscles, de stimuler et de voir, grâce à la pile, enfin la pile considérée comme une sorte de source de vie potentielle. Donc on fait revivre en quelque sorte les corps exécutés, qui ont été exécutés proprement d'ailleurs, hein, la lame, à la différence de la hache de l'Ancien Régime, justement, à cette action propre. On est quand même dans l'idéologie du propre et du quasiment pas sanglant, si vous voulez. Hein. Les descriptions en tout cas vont dans ce sens, là aussi en Occident.
Des descriptions qui sont celles de médecins, mais quand effectivement des gens assistent à l'exécution, ils sont un petit peu moins, ils sont
alors,
un petit moins positifs sur le caractère de propreté.
C'est évident, les médecins nettoient d'emblée la scène, et donc on stimule avec des piles et on voit les corps tressaillir et on se dit tiens, là, on est en train peut-être de manipuler quelque chose qui ressemble à l'origine de la vie.
Hein, oui, on va peut-être s'arrêter sur ces descriptions parce que certains de nos auditeurs nous ont dit qu'à 9h30 le matin, ils sont peut-être un peu tardifs, ils prennent leur petit déjeuner et que ce n'est pas tout à fait agréable. Séverine Niattard.
Oui, c'était par rapport à cette idée que vous développez, Anne Carole, aussi, qu'à une certaine époque, dans les années 1830, en fait, il y a une sorte d'inquiétude qui ressurgit parce qu'en fait, on se demande quelle est la définition clinique de la mort aussi.
Oui, c'est-à-dire que les inquiétudes, elles commencent en fait dès la fin de la Révolution, dès 1795. On s'inquiète sur la possibilité d'une survie dans la tête des décapités. Mais bon, c'est dans un contexte qui est très marqué par le politique aussi, par le regard qu'on porte sur la terreur et donc sur la cruauté éventuelle de la guillotine. Puis ça se calme et effectivement, ça ressurgit dans les années 1830 parce que les années 1830, c'est une période aussi où on s'interroge sur... la question des limites entre la vie et la mort. Hein. C'est-à-dire qu'on définit des zones comme ce qu'on appelle la mort apparente ou la mort imparfaite, qui n'est plus tout à fait la vie, qui n'est pas tout à fait la mort. Hein. C'est l'époque aussi où on craint les inhumations prématurées. Et très logiquement, les médecins qui s'intéressent, comme le docteur Julia de Fontenelle, à cette question des inhumations prématurées, s'intéressent aussi aux décapités et reviennent sur la possibilité d'une survie chez eux.
Et c'est l'époque aussi où Mary Shelley invente le personnage de Frankenstein, j'imagine. C'est à peu près la même époque.
Alors effectivement, c'est-à-dire que l'intérêt que les médecins vont porter aux décapités et les expériences qu'ils vont faire sur eux, il y en a trois séries. Enfin, je suis désolée de revenir sur le sujet si ça doit troubler le déjeuner des auditeurs. Mais bon, il y a des expériences, je dirais, qui sont simplement d'observation et de vérification. Hein. On va tenir la tête du décapité, l'interpeller, etc. pour voir si ses yeux bougent, enfin, s'il réagit. Il y a des expériences comme celle que décrivait Vincent Barras qui vont consister effectivement à faire passer du courant ou à piquer avec des pointes des parties du corps du décapité pour essayer de les faire réagir, des expériences qu'on pourrait qualifier de physiologiques, mais aussi des choses qui se rapprochent plus de Marie Shelley, c'est-à-dire à partir des années 80, un peu plus tardivement, mais l'idée vient avant, qui vont consister à essayer de faire revivre des parties du corps du décapité. Alors on va commencer par un bras, et puis à partir de 1880, on va essayer de transfuser du sang dans la tête des décapités. C'est un physiologiste, le docteur Laborde, qui tente le premier l'expérience. Et les expériences vont se multiplier dans les années 80, en provoquant d'ailleurs des débats éthiques dans la profession.
Ah ben on peut l'imaginer. Emmanuel Taïeb.
J'ajoute simplement qu'il y avait aussi des autopsies pratiquées sur les corps et sur les têtes pour essayer de trouver les traces physiques de la folie criminelle, plus ou moins avérée, du condamné.
Oui, alors, il y a les anthropologues, en fait. Il n'y a pas que les médecins qui s'intéressent vraiment au corps. Comme ça,
les deux travaillent en parallèle, mais effectivement, ça les intéresse. Et ils ont un corps à disposition pour travailler dessus. Bon.
Alors, sortons peut-être des descriptions trop cliniques et revenons à un soupçon peut-être de discussion humanitaire sur la question de la peine de mort. Un enregistrement de 1971, Gaston Monnerville, ancien président du Sénat et avocat, évoque une exécution à laquelle il a assisté.
Maître Monnerville, ancien président du Sénat.
Je sais ce que c'est que la peine de mort parce que j'ai assisté dans ma vie d'avocat à un condamné à mort, qui n'était pas mon client, mais que j'ai assisté. Eh bien, j'ai vu un jeune homme qui était un anarchiste, c'est vrai, qui avait abattu un jeune officier par gloriole anarchiste, dont la tête allait être sauvée par Maître Campinqui, qui était mon patron, comme on dit, au palais, et qui s'étendait sous jure en leur disant, avec une sorte de vantardise un peu folle, « Je vous mets au défi de prendre ma tête. » Les jurés l'ont immédiatement condamné à mort. Mais pendant un mois, j'ai été le voir dans sa cellule de condamné à mort. Et cela, je n'oublierai jamais, dussé-je vivre un siècle. Un homme dont les deux pieds sont attachés par une chaîne énorme, une sorte de banquette, dont la cellule est éclairée toute la journée et toute la nuit à l'électricité, sans qu'il puisse avoir une seconde d'ombre dans sa cellule. Dans la porte de la cellule, il y a une lucarne où il est surveillé continuellement par un agent de l'administration pénitentiaire de jour et de nuit, dont évidemment la pitance est maigre, mais qui moralement, et je peux dire physiquement, subit des souffrances qui sont au-delà de ce qu'il a fait. Je ne justifie pas du tout ce qu'il a fait. Une condamnation aux travaux forcés ou à la réclusion aurait pu être prononcée, mais la condamnation à mort par les souffrances qu'elle ajoute, à mon avis, ce n'est plus de la justice, si vous voulez, une vengeance de la société.
Voilà, c'était donc Gaston Monnerville en 1971 évoquant cette question de l'exécution capitale, une exécution capitale qui depuis 1939, il faut le rappeler, ne se faisait plus donc en public, à l'extérieur de la ville, mais se faisait donc à l'intérieur du huis clos des prisons. C'est une grande évolution, on l'a évoqué ici même hier et un peu avant-hier également, c'est une grande évolution des années, disons, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, que de penser justement que ce caractère d'exposition publique de l'exécution, Emmanuel Taïeb, doit peut-être être marginalisé, petit à petit circonscrit, parce qu'on ne croit peut-être de moins en moins au caractère d'exemplarité de la peine.
Oui, c'est un phénomène qui touche tous les pays européens. La plupart du temps, ils ont supprimé la publicité des exécutions à la fin du 19e. La France est un tout petit peu en retard, comme ça arrive parfois, 40 ans de retard, on supprime ça en 1939. Il y a effectivement beaucoup d'hypothèses, hein, la concurrence de la prison, les problèmes liés au maintien de l'ordre, mais il y a effectivement l'idée que l'exemplarité ne fonctionne plus très bien, que c'est un spectacle sanguinolent qui appelle le sang, que loin de dissuader les criminels, ça peut au contraire leur montrer que la société elle-même et que l'État peut être très violent et que du coup, la violence peut être légitimée.
Et là où on voudrait de l'ordre, ça peut produire du désordre aussi.
Il y a effectivement un certain nombre d'exécutions qui tournent à l'affrontement entre police et manifestants, notamment dans le cas des exécutions d'anarchistes.
Séverine
Yatta. En même temps, ce qui est intéressant là, dans le témoignage de Gaston Monnerville, c'est qu'il parle de la souffrance de la prison. Et donc on sait bien que dans toute la théorie de Foucault, c'est de parler d'une certaine sobriété punitive, donc c'est plus le pouvoir ne s'exerce plus sur les corps mais sur l'âme du condamné. Et en même temps, il y a quand même, et Foucault le dit aussi, il y a une souffrance physique, hein, même dans l'institution prison et au-delà dans l'institution guillotine.
Oui, et toute la philanthropie du 19e siècle, en commençant par Victor Hugo, va essayer d'aller travailler sur ce moment qu'on ne voit pas, qui est dissimulé dans la prison et qui est les souffrances que peut endurer le condamné condamné à la prison ou condamné à mort au sein même de la prison. Qu'est-ce qui se passe et quel type de souffrance cela engendre?
Alors cela nous amène à nous poser la question de Michel Foucault. Ça n'est pas pour rien, je le disais tout à l'heure, que nous avons choisi de faire cette semaine. C'est parce que, évidemment, Surveiller et punir a été un très grand livre qui a beaucoup inspiré historiens, philosophes et anthropologues sur cette question justement de la punition dans les sociétés occidentales. Est-ce que, Anne-Carole, le travail que vous avez mené donc avec Régis Bertrand autour de l'exécution capitale à l'Université d'Aix en particulier, a été influencé? Est-ce qu'on peut penser que ce que l'on voit apparaître comme travaux, les travaux que l'on voit apparaître aujourd'hui autour de l'exécution capitale, autour de la peine de mort, du rapport à la médecine, etc., sont des travaux qui sont influencés par cette école de pensée-là, ou est-ce que c'est un peu différent? Est-ce que, par exemple, l'école qui est issue aussi de l'histoire des corps, du corps, l'histoire du corps qui vient d'être publiée en 3 volumes par, entre autres, Georges Vigarello et Alain Corbin, est-ce que cela aussi, c'est une autre façon d'aborder ces questions?
Alors, je crois qu'on a tous, effectivement, été influencés par Foucault, ce serait idiot de le nier. Moi j'ai été une ancienne étudiante de Jacques Léonard et vous savez sans doute qu'il a eu un débat.
Il n'était pas tout à fait d'accord avec oui. Michel Foucault sur ce sujet-là.
Oui, il n'était pas tout à fait d'accord, mais en même temps il a commencé par dire le très grand apport qu'avait constitué le travail de Foucault.
Oui, hein. La table ronde avec Michel, avec Jacques Léonard et avec Michel Perrault en particulier, organisée donc à la Sorbonne dans le bureau d'histoire du 19e siècle, a donné lieu à l'impossible prison.
Voilà, exactement. Et donc, je crois que, effectivement, tout le monde a utilisé, s'est servi des concepts créés par Foucault. Mais ce que Jacques Léonard mettait assez bien en évidence, il me semble, dans le débat, c'est qu'il y a une histoire normative des corps et puis il y a une histoire des pratiques et des réalités. Et que cette histoire des pratiques et des réalités, elle est souvent un petit peu différente parce qu'il y a tout le bricolage. C'est quand même l'exécution.
Il faut faire une différence, selon vous, entre le discours, par exemple, discours des médecins et la pratique des médecins, c'est ce que vous voulez dire, par exemple ?
Non, enfin même le discours de la loi, tout simplement. Et ensuite, le discours de la loi qui voudrait que l'exécution soit réduite à un instant et soit très brève, enfin, soit un acte pratiquement technique. En fait, on sait très bien que l'exécution met aux prises deux corps. Le corps du bourreau, alors sous l'Ancien Régime, évidemment, plus encore qu'au temps de la guillotine, où il y a quand même la médiation de la machine, mais elle met quand même aux prises deux corps. Et de ce fait, il y a toujours dans ces interstices des choses qui se dérèglent, qui ne marchent pas bien. Enfin, on a parlé tout à l'heure du rituel de l'exécution. Effectivement, l'exécution, c'est quelque chose de très ritualisé, avec une procession, avec un condamné qui tient son rôle, qui est censé prononcer certaines paroles, trouver une sorte de rédemption dans l'exécution. Ben, on sait très bien que ça n'a pas toujours marcher comme ça, il y a des ratés, il y a des failles. Donc de ce point de vue-là, Foucault, d'accord, revu un peu par Jacques Léonard. Simplement pour dire aussi, pour situer dans le champ historiographique, je crois qu'effectivement, le renouveau des études consacrées à l'exécution ne peut pas être dissocié de trois autres champs de l'histoire. C'est effectivement l'histoire du corps, l'histoire aussi des sensibilités, sensibilité à la violence, et puis l'histoire des attitudes collectives face à la mort. On est là, je crois,
on peut entendre Michel Vauvel, par exemple, peut-être.
Tout à fait.
Vincent Barras, est-ce que vous êtes d'accord avec Anne Carole sur ce qui vient d'être affirmé?
Oui, tout à fait. Je crois qu'avec Anne Carole, d'ailleurs, on partage un peu la même école, je dirais. Je n'ai pas été l'élève de Jacques Léonard, mais il a été extrêmement important pour ma formation. De même que l'a été Michel Foucault pour toute histoire de la médecine aujourd'hui. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on lit Michel Foucault, il ne faut pas s'arrêter aux normes, finalement, qu'à son insu ou de son plein gré, Michel Foucault a imposé à la profession historienne. Maintenant, je crois qu'il est temps, enfin, ça fait déjà quelques années qu'on y est, à des études, je dirais, de type un peu micro-historique qui montrent qu'effectivement, dans les pratiques, il y a une distance avec les normes qui est parfois gigantesque et qui fait que les périodisations, par exemple, sont tout à fait différentes de celles que Michel Foucault a élaborées avec son épistémé, par exemple.
Donnez-nous un exemple, justement, ces périodisations sont...
Justement, disons, dire que tout recommence, par exemple, que la médecine impose un nouveau régime des corps à partir du 19e siècle parce qu'elle développe un modèle anatomopathologique, par exemple, qui est une des thèses aussi de Michel Foucault. Eh bien, quand on suit pas à pas les procédures qu'utilisent les médecins ou comment les patients, par exemple, face aux médecins réagissent, on s'aperçoit qu'il y a bien, il y a beaucoup de l'ancien régime de la médecine qui continue jusque tard dans le 19e, voire jusqu'au 20e siècle, et qu'on ne peut pas parler de rupture comme ça dans la médecine d'un jour à l'autre, comme si tout changeait parce que tel discours médical tout à coup apparaît avec force dans le public.
Jérôme Bourgon, je ne veux pas faire dans ce débat de vous l'autre absolu, mais j'imagine que est-ce que c'est le cas? Est-ce que, par exemple, votre travail personnel sur la question du supplice chinois a été influencé par les travaux de Michel Foucault, ou est-ce que c'est un autre univers, une autre façon de penser qui vous a motivé vous-même à travailler sur ce sujet?
Alors, un peu les deux. C'est-à-dire que Michel Foucault est très pratique pour moi, je suis désolé de parler comme ça, en tant qu'idéal type, en quelque sorte, au sens weberien. C'est-à-dire qu'il rassemble un certain nombre de traits caractéristiques, malgré tout, de l'exécution européenne, principalement française. Donc, je l'utilise comme tel, comme une espèce de modèle
de
contre-modèle. Voilà, c'est par rapport à cela que je fais des différences, je montre les différences avec l'exécution chinoise. Mais je dirais que je palie un petit peu ce côté très idéal typique de Foucault, en utilisant beaucoup Spierenburg, qui est un historien donc qui lui s'est attaché,
il faut préciser,
qui est beaucoup plus empirique.
Et c'est qui? Alors, qui est Spierenburg?
Alors, c'est un Hollandais, oui, qui a beaucoup travaillé à partir de l'exemple d'Amsterdam et qui après a généralisé son propos à toute l'Europe et qui a fait un excellent livre, dont je n'ai pas le titre en tête, j'en suis désolé, enfin, en anglais, hein, qui a été traduit en anglais, sur les exécutions européennes. Et il est très empirique, c'est-à-dire qu'il montre vraiment, il est très historique positiviste, c'est-à-dire qu'il nous montre ces exécutions. Et ça, c'est très pratique aussi, parce que ça donne vraiment des choses vécues qui ne se trouvent pas dans Foucault. Et je suis obligé de m'intéresser à Foucault aussi, parce qu'il a un énorme impact outre-Atlantique, et que la sinologie américaine est une des sinologies dominantes. Et il y a beaucoup de sinologues, enfin quelques sinologues américains ou australiens qui ont tenté d'appliquer Foucault à la Chine de manière, à mon avis, un petit peu, enfin, en ne prenant pas toutes les précautions méthodologiques requises.
Oui, Emmanuel Taïeb.
Donc
oui,
Foucault était présent dans le débat.
Le livre de Peter Spierenburg s'appelle « The Spectacle of Suffering », le spectacle de la souffrance, qui est effectivement un livre très important. Et Spierenburg essaye de faire tenir à la fois la perspective foucauldienne et puis de travailler aussi à partir des travaux de Norbert Elias, c'est-à-dire d'essayer de penser une évolution des sensibilités qui serait elle-même enchâssée dans ce que Elias appelle le processus de civilisation, avec un abaissement du seuil de sensibilité à la violence qui fait qu'à certaines périodes historiques, eh bien, le spectacle de la souffrance, hein, le titre du livre, eh bien, devient insupportable à un certain nombre d'élites qui vont diffuser leur opposition à la publicité des exécutions.
Mais ce sont ces mêmes élites, d'une certaine façon élites occidentales, qui vont faire un peu la publicité du supplice chinois. Donc création, expliquez-vous dans vos travaux, c'est une sorte de mixage occidental du regard porté sur la Chine. Donc ces supplices, le supplice des 100 morceaux par exemple, etc. Tout cela va être repris par des intellectuels, par des amateurs d'orientalisme aussi, qui vont le transmettre en Europe, et alors même que ces supplices se sont arrêtés au début du XXe siècle en Chine, par exemple.
Oui. Alors, si on peut revenir un petit peu en arrière sur les disciplines qui sont intéressées aux supplices chinois, la filière médicale est vraiment quelque chose d'essentiel. On retrouve les principes, enfin disons que la connexion avec la Chine s'est faite autour du fonds très riche du docteur Lacassagne, qui se trouve à la bibliothèque municipale de Lyon.
Donc le docteur Lacassagne, un fonds sur lequel a travaillé entre autres Philippe Artière. En particulier.
Voilà, je crois sur les problèmes de prison.
De prison, voilà.
La médecine légale.
Mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc il s'agissait d'un médecin légiste, mais qui a créé autour de lui une véritable anthropologie de tout ce qui est exécution, suicide. Enfin, ça, c'est extrêmement large. On trouve pas mal de thèmes qui ont été ensuite travaillés par Foucault, d'ailleurs, soyons passants. Et on trouve là les médecins coloniaux, comme Matignon, par exemple, qui ont collecté les photographies qui avaient été faites par les troupes françaises qui étaient en garnison à Pékin après les événements des boxeurs. Donc ça circulait, si vous voulez, sous le manteau parmi les militaires. Et ces médecins militaires, notamment Matignon, ont collecté ces photographies et les ont publiées. D'abord,
vous voulez dire que si les médecins chinois ne s'intéressent pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à la question de l'exécution, de la même manière que les médecins occidentaux s'intéressent à cette question-là, ce sont les médecins occidentaux qui vont prendre appui sur ces photographies pour pouvoir faire quelque chose?
Absolument. La première fois qu'on entend parler du supplice des 100 morceaux, enfin non pas qu'on en entend parler parce qu'on le connaissait déjà depuis longtemps, mais la première fois qu'on le voit et qu'on en a une analyse médicale, c'est par le docteur Matignon dans une revue médicale du docteur Lacassagne. C'est un tableau clinique, hein, on vous explique ce qui se passe, qui arrive au patient dans un lingshe, dans un démembrement. Donc ça a transité par eux. Et alors ce docteur Matignon donc, fait un compte-rendu scientifique ou scientiste et qui va être récupéré par des écrivains, notamment Georges Leroux, le créateur de Rouletabille, et qui va l'utiliser verbatim, enfin qui va vraiment le citer tel quel, mais en le transposant sur une scène de théâtre, de music hall, par un Chinois. Et ça donne un résultat extraordinaire. On a immédiatement du Grand Guignol. C'est comme ça que d'un thème médical, on arrive à un thème théâtral.
Oui, et on arrivera,
par simple citation.
On arrivera ensuite avec Georges Bataille et les Larmes des Roses à autre chose encore.
Il y a aussi
on est 30 ans auparavant.
Anne Carole.
Oui, je disais, il y a aussi Octave Mirbeau, le Jardin des Supplices, qui détaille à l'envi tous ces supplices orientaux.
Oui, Jérôme Bourgon.
Oui, alors c'est l'origine en effet. Le terme supplice chinois, qui est très curieux, est une espèce de précipité entre quelque chose qui existait, qui était donc cette longue mémoire visuelle à partir des aquarelles, le roman de Mirbeau, qui est un roman purement imaginaire, il n'y a quasiment aucun élément d'observation. Et d'ailleurs, l'idée d'une de mes collègues, Claire Maria, qui a aussi travaillé sur cette question dans notre groupe sur le supplice chinois, pense que c'est en fait un livre sur l'affaire Dreyfus et le colonialisme, principalement.
Une sorte de transposition.
Voilà, et donc, il y a une espèce, on pousse à l'extrême un certain nombre de thèmes, et on se retrouve en Chine avec une espèce d'utopie sadienne, ou une hétérotopie sadienne. Donc, il y a en fait très peu de choses sur la Chine. Il n'y a pas d'observation. Il avait sans doute vu un certain nombre de choses dans les journaux de l'époque, notamment le Petit Journal, qui publiait des illustrations chinoises. Mais c'est juste avant les boxeurs. Le grand événement qui va vraiment mettre la cruauté chinoise, entre guillemets, vraiment au centre de l'actualité, c'est les boxeurs. Et ça, c'est en 1900. Or, le Jardin des Supplices, c'est de 1898-99. C'est juste avant. Mais en effet, il a eu un rôle très important après dans la thématisation.
Oui, mais
Anne Carole.
Oui, juste, j'en profite. Ce qui me paraît intéressant, c'est que dès avant cette période, court l'idée que les Orientaux ont un seuil de résistance à la douleur beaucoup plus plus élevé que les occidentaux, qui peuvent supporter des douleurs beaucoup plus fortes. Alors, oui. Je ne sais pas d'où ça vient
Jérôme
exactement.
Bourgon.
Alors, en effet, alors, vous me lancez sur un de mes thèmes de prédilection. En effet, il est très frappant de voir tous les témoins, des meilleurs aux pires, aussi bien des soldats un peu brutaux que des dames patronesses, remarquez que les Chinois sont, alors ouvrez les guillemets, impassibles, n'ont pas de nerfs, etc. C'est-à-dire que, en fait, je crois qu'un historien...
Est-ce que ça rentre dans la théorie des races en même temps, Jérôme Bourgon ?
Alors, bien sûr, à certains moments, quand le docteur Matignon, très sérieusement, vous explique qu'ils n'ont pas de nerfs au sens scientifique du terme, là, on est en plein racisme. Mais d'un point de vue général, lorsque tous les témoins, même les plus attentionnés, disent la même chose, l'historien est obligé de se poser le problème, à savoir qu'il y a quelque chose. Et je crois qu'il y a une différence, non pas physiologique, il y a une différence comportementale et sociale totale dans l'exécution, dans l'organisation même de l'exécution, et qui révèle en fait un arrière-plan complètement différent, et il faut revenir aux racines religieuses. Pour nous, dans un monde chrétien ou post-chrétien, la douleur signifie, d'ailleurs on ne parle que de ça depuis le début de l'émission, c'est la douleur qui est la pierre de touche qui va faire qu'une exécution est ou non humaine. Parce qu'en dernière analyse, la douleur, pour nous, elle a une signification positive ou négative, elle est rédemptrice parce que finalement, si on revient à l'origine, c'est ce qui prouve que Dieu s'est fait homme. Qu'est-ce qui fait que le Christ est aussi un homme ? C'est qu'il a souffert comme nous. Dans un monde qui n'est pas chrétien, les choses sont complètement différentes. Et en particulier dans un monde bouddhiste, pour résumer, où la douleur doit être niée en quelque sorte, où elle doit être, comment dire, elle est méprisable. Donc on ne manifeste pas du tout, enfin la réaction à la douleur est complètement différente du point de vue de l'ensemble des comportements aussi bien sociaux qu'individuels.
Et c'est dans ce fracas, donc l'arrivée des Occidentaux dans ce monde-là, d'un seul coup, qu'ils ne comprennent pas véritablement ce qui se passe sous leurs yeux, que va se jouer justement cette incompréhension et la montée de cette idée reçue du supplice chinois, Jérôme Bourgon.
C'est bien ça. Dès le XVIIIe siècle, donc, ces marchands qui sont présents à Canton vont demander qu'on leur fasse, à partir d'éléments chinois, de l'iconographie chrétienne, en dernière analyse.
Oui, c'est cela. Emmanuel Taïeb.
Oui, simplement quelques mots pour revenir sur le cas français. On a aussi effectivement un certain nombre de spectateurs des exécutions qui vont vérifier le courage du condamné, la bonne tenue du condamné, son impassibilité éventuelle devant la douleur. Et une bonne mort, une bonne exécution, une exécution réussie est une exécution où le condamné ne s'est pas plaint, n'a pas tempêté, n'a pas crié, et est mis à mort dans les règles du rituel habituel. Donc il y a tout ce que moi j'ai appelé un rapport martial à l'exécution, c'est-à-dire qu'on va venir voir une exécution parce que c'est un moment où on va exalter des valeurs de virilité, de courage, à la fois le courage du condamné à mort, mais aussi le courage de ceux qui le regardent et qui ont la capacité de soutenir cette exécution comme une épreuve militaire. Les vrais hommes sont ceux qui, dit-on à l'époque, peuvent regarder ça sans défaillir.
Et il y a le bourreau aussi qui a un rôle un peu similaire. Un bon bourreau, c'est celui qui fait son métier.
Absolument.
Rapidement,
sans anicroche. Il ne faut pas de moment de latence dans le rituel, sinon le charme, entre guillemets, est rompu. À ce moment-là, toute la violence du dispositif se dévoile. Donc, on surveille ce que fait le bourreau, on le chronomètre. Et il y a eu des bourreaux pas très très bons à la fin du 19e siècle, dont les mauvaises manières d'exécuter étaient commentées en permanence dans toute la presse.
Oui, Anne-Carole, vous vouliez intervenir.
Oui, non, simplement pour dire qu'effectivement, il faut faire, comme le dit Emmanuel Taïeb, il faut faire preuve de courage et de virilité. Il ne faut pas non plus narguer le public et il faut quand même aussi se repentir d'une certaine façon et montrer des signes de repentir parce que si l'on nargue la guillotine jusqu'au bout comme l'a fait Lassner qui a étudié Anne-Emmanuel de Martigny.
Oui, venez me voir passer monsieur et vous verrez si je tremble, c'était la fameuse phrase de Lassner en 1836.
Si on nargue et si on ne fait pas amende honorable au moment d'être guillotiné, eh bien on s'expose comme l'a montré Anne-Emmanuel à avoir son exécution salie par la presse et diffamée, puisque la version officielle qui a couru après l'exécution de Lassner, c'est justement qu'il avait fait preuve de lâcheté.
Vincent Barras, vous devez être content de ce que vient de dire Jérôme Bourgon, votre voisin de studio à Genève, à savoir l'impact et le pouvoir des médecins dans cette question de la transmission d'un supplice particulier, donc réinventé, recréé à partir des catégories occidentales.
Oui, bon, si je suis content, c'est commissaire à la médecine, c'est pas que je...
j'entends bien.
Collègue médecin, on s'entend bien. Mais en effet, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la lecture, enfin, je crois que ça fait partie aussi là, alors, d'une évolution de la médecine occidentale, celle de la lecture du monde autre, en particulier oriental, mais aussi africain, et cette question de la douleur qui a été cruciale. Alors, il y a une histoire de la douleur qui... plus générale, dont fait partie cette petite histoire, si vous voulez, l'exécution capitale du point de vue des médecins. Comme l'a dit Jérôme Bourgon, effectivement, la question de la douleur est centrale dans tout le discours médical. Au fond, qu'est-ce que la douleur, d'où elle vient et qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que la douleur, le problème de la douleur, c'est ce que rencontrent aussi les médecins qui sont au pied des échafauds, c'est qu'elle peut simplement se dire ou ne plus se dire ou se manifester, mais on ne peut pas la mesurer. Enfin, il est très difficile de mesurer des douleurs. Il n'y a pas d'échelle de douleur, sinon purement subjective. Et du coup, on est obligé de trouver des catégories dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'elles sont très fortement codées culturellement. Alors, ce que dit Jérôme Bourgon à propos des Chinois impassibles, ça se répète, par exemple, mais d'une autre façon, à propos des femmes ou des enfants. Il y a toute une question de la douleur. Est-ce que les femmes en Occident ou les enfants souffrent ou souffrent pas, ou souffrent différemment des hommes? Donc, il y a des normes de douleur à partir desquelles on essaye de classer les différents humains, soit par sexe, soit par genre, soit par âge, soit par race. Et là, la médecine a eu un rôle assez crucial dans la façon, dans le modèlement de nos propres sensibilités. C'est ça aussi qui est tout à fait intriguant dans l'histoire.
Emmanuel Taïeb, on a évoqué depuis le début donc, l'évolution en parallèle du discours médical et puis de cette question de l'exécution publique en Occident. On pourrait aussi mettre en place une évolution du discours démocratique, par exemple, et donc le regard porté sur le peuple, en particulier à partir de la Troisième République. Vous insistez bien dans un de vos articles sur le fait que le peuple peut être considéré quelquefois comme de la populace, et cette populace, elle ne réagit pas comme on voudrait la voir réagir. Cette populace n'est pas suffisamment éduquée pour avoir droit à regarder un tel spectacle. Et donc, il y a aussi une dimension politique. Vous êtes spécialiste de sciences politiques, une dimension politique de regard de la société sur elle-même, la société démocratique sur elle-même, à travers ce cas de l'exécution capitale.
Oui, en fait, il y a un jeu qui se produit entre la foule qui vient assister aux exécutions et les élites qui, elles aussi, viennent assister à l'exécution et regardent à la fois l'exécution et la foule, parce que...
Et elle se comporte d'être des élites, parce que d'une certaine façon, elle ne se comporte pas comme la populace qui hurle, qui crie, qui crie à mort.
Les élites ont l'impression qu'elles ont le bon registre émotionnel ou la bonne grammaire émotionnelle pour apprécier une exécution dans le silence, dans la gravité, dans le recueillement, dans la pensée de la vie et de la mort, alors que la population, en tout cas dans les descriptions qu'en font les élites, n'aurait absolument pas les codes, et donc vraiment serait extrêmement mal éduquée, et du coup ne mériterait pas de venir voir l'exécution, non seulement parce qu'elles mettent du désordre et ça crée des problèmes de maintien de l'ordre, mais aussi parce qu'elles n'apprécient pas l'exécution à sa juste valeur et que du coup, ça remet en cause l'exemplarité et le côté dissuasif de l'exécution.
Oui, on en a un petit peu parlé avec Laurence Guignard hier dans cette promenade parisienne. En même temps, il faut quand même bien préciser, c'est l'élite elle-même qui donne à voir ses représentations par l'écrit, qu'il s'agisse des chroniqueurs ou des romanciers.
Oui, alors et en réalité, quand on va travailler sur un certain nombre de sources, et en particulier des archives de province et d'exécutions qui sont déroulées dans des grandes villes de province, on ne retrouve plus cette construction de la foule comme populace hurlante, mangeant, se livrant à des orgies au pied de l'échafaud.
Et d'ailleurs, les procureurs de province qui sont interrogés au moment d'une grande enquête en 1884, une proposition de loi au Sénat d'Agénor Bardou, justement pour mettre fin à la publicité des exécutions capitales, les procureurs de province ou les cours de province disent, écoutez, ça c'est propre à Paris, c'est pas propre à nous, ça se passe bien quand ça se passe chez nous, Paris c'est parce que c'est le lieu de toutes les débauches, c'est là où il y a le centre de la France, mais le centre aussi de toutes les truanderies, pour être
voilà, de toutes les truanderies, de ce qu'on appelait les apaches à l'époque, les escarres qui vont sortir pendant comme des taupes de leur nid pour aller voir l'exécution au cœur de la nuit. Et effectivement, là aussi, il y a un jeu entre les procureurs de province et la capitale pour dire qu'en province, ça se passe beaucoup mieux et que c'est finalement un problème lié à Paris, l'organisation des exécutions.
Et là, on pourrait croire, on va peut-être terminer sur ce sujet-là, enfin, ça peut être un des sujets de conclusion de notre émission d'aujourd'hui, on pourrait croire que le discours et le débat sur l'abolition est un débat qui est concomitant à ce débat sur la publicité des exécutions publiques. Or, on s'aperçoit en vous lisant, Emmanuel Taïeb, que ce sont deux débats parallèles, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément forcément les mêmes qui demandent l'abolition de la peine de mort et qui demandent la fin de la publicité pour les exécutions publiques. Il y a donc deux débats parallèles qui courent tout au long de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle.
Oui, ce sont deux sujets différents en réalité qui ont une certaine autonomie, en particulier une autonomie législative, c'est-à-dire que les propositions de loi liées à l'abolition de la peine de mort et les propositions de loi liées à la publicité des exécutions sont différentes, ne sont pas déposées par les mêmes personnes, ne sont pas déposées au même moment, et que même là dans l'enquête dont vous parlez d'Agénor Bardou, quand on commence à parler de la publicité, on prend bien soin de dire attention, nous parlons de la publicité des exécutions et pas de l'abolition de la peine de mort. Ce sont deux questions complètement disjointes et on a effectivement des gens qui militent dans les deux camps de manière assez surprenante. Donc on peut avoir des gens qui sont favorables à la peine de mort mais qui ne veulent plus qu'elle se tienne en public parce que ça pose des problèmes, et on a de manière plus attendue des gens qui sont à la fois abolitionnistes et en même temps hostiles à la publicité. Mais enfin, on trouve tous les camps, donc effectivement, les deux questions marchent en parallèle.
Et on peut s'étonner, Anne-Carole, d'une conclusion comme celle-ci, parce que dans la tête de chacun, y compris de moi-même, avant de commencer à travailler sur ce sujet et de vous lire les uns et les autres, j'avais l'impression que ça pouvait fonctionner de pair, mais on s'aperçoit qu'en travaillant plus précisément sur un sujet comme celui-ci, eh bien voilà, il y a des discours qui sont parallèles et pas forcément concomitants sur cette question de l'abrogation, en particulier l'abrogation de la peine de mort.
Alors moi, ça me surprend moins parce que on
retrouve le même. Vous travaillez depuis longtemps, c'est normal.
Oui, puis on trouve un peu le même phénomène de parallélisme entre ceux qui sont pour l'abolition ou contre l'abolition de la peine de mort et ceux qui sont pour ou contre l'utilisation de la guillotine comme moyen de mise à mort, dont a parlé Emmanuel Taïeb tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des alternatives qui sont proposées. Des gens peuvent être pour la peine de mort et contre la guillotine. On voit très bien ça, notamment au XXe siècle, quand on a l'impression que par les produits pharmaceutiques, on pourrait utiliser des mises à mort plus douces.
Vincent Barras, ça vous étonne aussi ou pas, avec votre travail d'historien de la médecine?
Non, ça ne m'étonne pas du tout.
Décidément, je suis seul à être étonné. C'est normal, je joue le rôle de Candide.
On parlait de Foucault tout à l'heure, où une certaine lecture de Foucault nous a habitués peut-être de façon un peu trop systématique à voir les choses de façon monochrome. Et je crois qu'il y a une infinité de nuances, y compris dans des choses aussi spectaculaire et frappante que les questions de la peine de mort. Ce qui est par exemple intéressant, ce que je rebondis sur ce que vient de dire Anne-Carole, c'est la guillotine qui paraît si humaine aux yeux de ses inventeurs et aux yeux de ses promoteurs à la fin du 18e siècle, paraît barbare et inhumaine au fur et à mesure de l'évolution des sensibilités. Et effectivement, une injection, c'est beaucoup plus simple au 20e siècle qu'une guillotine qui paraît tout à coup quelque chose d'atrocement barbare. Donc au fond, l'autre n'est pas seulement le chinois, mais aussi l'ancien, celui qui venait avant. Ça, on a un regard là qui est quand même assez fluide.
Anne-Carole, si vous continuez à travailler sur ces questions, si on peut donner en deux mots les suites d'un travail comme l'exécution capitale au Presse universitaire de Provence et le travail qui a été mené en commun par tous ces chercheurs autour de cette question-là. Il y a encore de quoi faire pour des jeunes chercheurs en particulier. Il y a encore beaucoup de fonds qui n'ont pas été exploités, qui mériteraient de l'être.
Oui, je pense. Enfin bon, moi, pour parler du sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire les médecins et la guillotine, je crois qu'il y a tout un fil, effectivement, à tenir de la conception à l'abolition, qui n'a pas été suivie en tant que telle.
Et que vous allez suivre vous-même, de toute façon.
Voilà.
Oui, Emmanuel Taïeb, sur ce point-là.
Moi, je vais continuer de travailler sur la peine de mort, parce qu'effectivement, il y a encore plein d'archives policières, judiciaires, qui sont extrêmement riches. Et puis, moi, j'ai essayé d'élargir récemment, en consacrant un numéro de la revue Quaderniz, à ce qu'on peut appeler le thanatopouvoir, c'est-à-dire la violence politique dans sa forme mortifère, comment les autorités doivent gérer la mort ou donner la mort. Et donc, je pense qu'il y a là un champ qui intéresse le politique de manière assez générale.
Jérôme Bourgon, sur ce plan-là, avec votre particularité, donc votre champ d'expérimentation se situe donc en Chine, je le rappelle, et il y a encore de quoi faire. Vous avez donc cette exposition qui dure jusqu'au 24 avril à l'École normale supérieure de Lyon sur les supplices chinois, mais il y a aussi un site internet sur lequel on peut travailler, on peut aller voir vos travaux ainsi que d'autres sur cette question-là.
Oui, absolument, il suffit de faire supplice chinois. Et on trouve assez facilement, je n'ai pas l'adresse ici de ce site, mais en faisant supplice chinois sur Google, on trouve très facilement.
Sur cette question du renouvellement de ces études, justement, il y a beaucoup de choses à faire.
Il y a un énorme chantier qui est les archives numéro 1 de Pékin, avec des centaines et même des milliers en fait de cas judiciaires qui nous permettent de voir comment et pourquoi ces exécutions avaient lieu. Et puis, tout à l'heure, j'ai parlé uniquement de l'aspect, disons, occidental de ma réflexion, mais il y a toute l'érudition japonaise qui a vraiment décrit depuis plus d'un, enfin, depuis un siècle maintenant, qui a vraiment défriché le droit chinois et qui est elle aussi quelque chose à découvrir, absolument énorme.
Merci.
Donc on essaye d'être sur les deux. Sur les côtés.
Merci beaucoup Jérôme Bourgon, merci Vincent Barras, merci également aux techniciens à Genève, à la technicienne Louisa Meyer, à Aix, à Gwenola Masson de France Bleu qui a accueilli dans ses studios Anne Carole, merci également à Emmanuel Taïeb. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonna Bolivier et Yaël Mandelbaum. Les archivinas ont été choisis par Jeannette Pazierkowski. Le site internet sur lequel vous pouvez écouter cette émission pendant un mois, télécharger l'émission jusqu'à demain matin, 9h, et puis également trouver des bibliographies complémentaires est tenu par Antoine Lachan. À la réalisation aujourd'hui, Charles Trou. Et puis, je voulais aussi préciser que demain, nous aurons une émission un peu spéciale. Nous lançons une série. Nous allons travailler avec certains historiens, en l'occurrence demain, Pascal Horry, Arlette Farge et également Fabrice Dalméda, sur la question de la fiction, comment les historiens prennent en compte la fiction à partir de fictions contemporaines, des films, des livres ou des bandes dessinées qui viennent tout juste de sortir. Ça sera l'émission de demain, vendredi, dans la Fabrique de l'Histoire.